Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'économie sociale et solidaire. Alors je vais vous en parler parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est tellement sensible qu'il faut que j'aille doucement quand je manipule la molette. Il y a de nombreuses façons de penser à l'économie et le laisse entendre la petite phrase que j'ai mise en dernier sur l'écran, qui est une phrase de Michel Rocard, dans les grands moments de la vie, on parle très très peu souvent d'argent. Et peut-être que c'est parce que justement on parle très très peu d'argent que ce sont les grands moments de la vie. Et pourtant, l'économiste que je suis est pétri de culture économique et financière. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Mais on va tâcher de regarder l'économie de façon un peu différente par rapport à d'habitude. Alors, je vais vous en parler en faisant un petit peu la différence entre l'économie sociale et l'économie solidaire. Ça n'est pas la même chose et les deux sont extrêmement porteuses d'avenir, à mon humble avis. Donc, on va commencer par essayer de comprendre pourquoi il faut s'intéresser à ça et ensuite, on parlera des deux, de l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi ? Eh bien d'abord parce que nous ne vivons pas une époque tranquille et comme vous le voyez sur les dates que je fais figurer sur le transparent, depuis la fin des années 80, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont conduit à s'interroger sur la façon dont on pouvait diriger, encadrer, développer l'économie dans notre monde occidental, mais aussi ailleurs. Alors, vous voyez qu'il y a il y a des dates extrêmement récentes. 2013, c'est la première fois qu'on va sortir un document sur la problématique du financement de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez, on est maintenant dans comment on agit avec des sous. Et non plus comment on agit uniquement avec son cœur, parce que le cœur c'est bien, mais il faut aussi des sous. Et donc on est désormais dans une organisation, dans notre pays, mais dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée, en train de s'interroger sur la façon dont on peut faire vivre l'économie, pas uniquement de type capitalistique traditionnel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'économie capitalistique, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi nécessaire, mais qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour vivre, travailler et vivre ensemble. Alors, cette évolution qui est un peu impressionnante, elle est liée au fait qu'on a quand même battu en brèche un certain nombre d'idées. Et en particulier cette idée de la propriété fondamentale des actionnaires d'une entreprise sur l'entreprise. Quand on dit c'est parce que les actionnaires demandent, c'est vrai, mais ça ne suffit pas de dire ça. Parce que les actionnaires sont propriétaires des actions qui constituent la base du capital de l'entreprise, mais ils ne sont pas possesseurs de la personnalité morale de l'entreprise. Et cette nuance-là, elle est importante. L'entreprise est là une personnalité morale. Cette personnalité morale, elle s'exprime par tous ceux qui travaillent dans l'entreprise. Du haut en bas de l'échelle, si on peut dire qu'il y a un haut et un bas de l'échelle. Cette idée-là, elle est vieille comme l'économie, c'est-à-dire très très longtemps. Mais à certains moments, on l'a oubliée. Alors, le fait de l'avoir oubliée a conduit à des prises de position, par exemple, sur comment est-ce qu'on détermine un prix ? Comment est-ce qu'on détermine un prix d'un produit ? Et aujourd'hui, on se rend bien compte que si le prix d'un produit est uniquement décidé par le fait qu'on veut une rentabilité importante de l'entreprise, on va un peu n'importe où. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre les éléments qui vont constituer le produit, c'est-à-dire les matières premières, le travail, l'investissement qu'il y a derrière, et puis ce qui est marqué sur l'étiquette. Et aujourd'hui, dans un grand nombre d'entreprises, il y a un flou complètement artistique qui nous dépasse, quand on est consommateur et qui nous pose véritablement un problème quand on est, quand on s'interroge sur la réalité de la construction de ce prix. Alors, c'est suffisamment interpellant pour qu'il y ait désormais d'autres statuts juridiques d'entreprise qui aient été construits. Alors, vous le voyez ici, avec les chiffres que je, avec les dates que je mets, c'est pas vieux. C'est pas vieux, bon, ça fait quand même 20 ans, c'est donc pas complètement ridicule. Mais ça veut dire que on s'est posé des questions en se disant, bon, la société anonyme, c'est très bien, la SARL, la société à responsabilité limitée, c'est très bien, mais il peut y avoir d'autres choses, des sociétés à finalité sociale, des sociétés coopératives. Vous connaissez tous les fameuses SCOP, les sociétés d'ouvrières, mais maintenant, il y a même des sociétés coopératives d'intérêt collectif, depuis 10 ans. Donc, ça veut dire que, vous voyez, ces événements que j'ai cités tout à l'heure, ils ont suffisamment interpellé les individus de toute nature, hein, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur position politique ou personnelle, pour qu'on décide de créer des statuts, des objets juridiques qui vont nous aider à construire des éléments d'économie autrement. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que même avec beaucoup de cœur, on peut faire des bêtises. Donc, il faut se donner les moyens d'organiser des structures économiques qui vont fonctionner autrement. Eh bien, ces structures économiques, aujourd'hui, elles existent. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à réfléchir l'organisation et surtout ce que l'on appelle la régulation économique un peu autrement. Alors, bien sûr, je m'amuse un peu en disant que ça fait 2500 ans qu'on y pense, mais c'est vrai. C'est vrai que depuis que le monde est monde ou qu'il s'est un petit peu organisé pour ne pas vivre uniquement en autarcie, eh bien, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on va fixer un prix. Et, bon, tous ceux qui ont... les clercs ou ceux qui ont fait un peu d'économie dans leur jeunesse se souviennent que saint Thomas d'Aquin avait écrit un bouquin sur le juste prix. Donc vous voyez, c'est pas saint Thomas d'Aquin, en plus on est à Toulouse, c'est pas complètement récent. Ce qu'il y a de changé et qui pose des problèmes d'organisation, c'est que notre monde technique a beaucoup changé et que, en particulier, depuis l'avènement d'Internet et le développement des nouvelles technologies, ce qu'on appelle le concept de rareté a complètement changé d'attitude. Quand j'étais petite, quand on allait faire des courses, il y avait quelques produits, puis on prenait parmi ceux qu'il y avait. Hein, et puis on ne se posait pas tellement d'autres questions parce qu'il n'y avait pas d'autre façon. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être rare? Si vous ne l'avez pas dans la rue à côté, vous l'avez dans un grand magasin. Si vous ne l'avez pas dans un grand magasin, vous allez sur Internet et vous vous apercevez que vous pouvez acheter, dialoguer, échanger avec des gens partout. Donc la rareté en soi a disparu parce qu'on est en contact avec la planète entière. Donc on ne peut plus fonctionner de la même façon que lorsqu'on n'était pas en contact avec la planète entière. Ça veut dire des tas de choses. Ça veut dire qu'on va rester dans son petit coin et qu'on va fermer et qu'on va dire la France c'est la France, l'Europe c'est l'Europe, etc. C'est pas possible. Et je trouve que quand on est à Toulouse, on comprend bien quand on voit les avions qui décollent, on va pas leur couper les ailes. Donc on peut pas dire oh mais l'avion c'est formidable, d'ailleurs c'est très bien, ça fait vivre largement Toulouse et la France. Mais bon, on fait comme si on y allait que pour aller regarder les beaux monuments ou aller se dorer au soleil. Non. Donc on est dans un monde dans lequel on échange avec tout le monde, on regarde avec tout le monde, et donc il faut penser autrement. Il faut penser autrement et puis se dire que, eh ben, sur certains points, c'est absolument magique. Donc on va réfléchir à l'économie en faisant la différence entre l'économie et l'économique, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, ce que je trouve d'intéressant dans cette réflexion, c'est que vous voyez... elle est fondamentalement démocratique. Elle est fondamentalement démocratique parce que... Excusez-moi. Parce que nous sommes tous interpellés. Par chacune de nos décisions de consommateurs, de producteurs, d'innovateurs, d'hommes ou de femmes en relation, eh bien, nous pouvons agir. Et nous ne sommes plus uniquement comme mon grand-père ou comme mon arrière-grand-père, qui travaillait là où il vivait, avec le patron qui était le proche et qui lui disait de faire comme ça. J'y pense souvent parce que mon grand-père, il était verrier et il faisait des bouteilles de champagne avec une pipe. Et il en est mort, bien sûr, de tuberculose. Alors, ce monde-là, il est révolu. Et donc, on va aller plus loin dans la réflexion et dans l'organisation. Et donc, nous allons rentrer dans cette nouvelle dynamique, celle que j'appelle la dynamique de l'économie sociale. Et puis après, on rentrera dans ce que j'appelle le charisme de l'économie solidaire. Alors, pour vous montrer comment les choses ont évolué sur ce plan, je me suis quand même... Bon, je suis prof, alors j'arrive pas à ne pas être prof, quoi. Vous voyez, Charles Gide, en 1890, bon, c'est vieux, mais c'est un économiste qui va fonder, pour la première fois, cette doctrine économique qui va être la base de la réflexion sur l'économie sociale et solidaire. Et quand il nous dit... La solidarité est le principe, la coopération et l'association sont les moyens. Quelque part, à beaucoup d'entre nous, ça dit quelque chose. Et cette première réflexion, alors en plus c'est sympa parce que c'est un Français qui a lancé cette idée et qui, bien entendu, a été repris, utilisé. Alors, il a été si bien repris qu'en 1978, quand le Parti socialiste se posait un certain nombre de questions sur son retour au pouvoir, ils ont repris des éléments de Charles Gide, mais ils n'ont pas osé quand même les mettre dans le programme commun de la gauche parce que ça risquait d'être trop dangereux. Alors on ne l'a pas fait. Mais pourtant, lorsque François Mitterrand a été élu, il a mis en place la première délégation à l'économie sociale. Et vous savez que dans le gouvernement actuel, il y a un ministre délégué, alors c'est assez amusant, à la consommation et à l'économie sociale et solidaire. Quelque part, ça m'interpelle qu'on mette les deux, mais bon, je constate qu'il y en a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces observations que je... en tant que Française de base, je mets un peu à la sauce française, il n'empêche qu'elles ont plein de répercussions aussi en Europe. Vous avez vu tout à l'heure que les premiers pays qui a défini un statut pour des entreprises conçues autrement, c'est l'Italie. Pas tout à fait par hasard, pour ceux qui connaissent un peu l'économie de communion. Et aujourd'hui, sur le plan européen, il y a une charte européenne de l'économie sociale. Je vous en ai apporté un exemplaire. Donc, ça date maintenant de 2002, donc ça fait plus de 10 ans que ça a été défini. Et vous voyez qu'en 2013, l'OCDE, donc l'OCDE c'est plus que l'Europe, il y a les États-Unis, il y a le Japon. Il y a des tas d'autres pays, il y a le Chili, donc l'OCDE vient de publier un rapport sur l'entrepreneuriat social. Alors, si je dis ça, c'est pour montrer que ça y est, ça diffuse. On est aujourd'hui dans un monde qui se pose véritablement ces questions. Alors, pour voir bien l'évolution... Le graphique que j'ai mis au tableau, qui, vous le voyez, vient d'un universitaire bordelais, montre qu'il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat. Ces différentes formes d'entrepreneuriat, elles se manifestent, bien sûr, par l'attention qui est marquée à la dimension financière et à la plus-value sociale. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'auteur, je le dis, mais bon. Je respecte son positionnement. Quand il dit profit exclusivement financier, c'est pas vrai. Enfin, moi, je trouve que c'est pas vrai. Je devrais pas dire, je sais pas exclusivement financier, hein. Mais à dominante financière, oui. Et de l'autre côté, on privilégie plus largement la plus-value sociale. Cela ne veut pas dire qu'il faut être déficitaire, parce que quand on est déficitaire, il faut bien prendre l'argent quelque part. Alors, ça peut durer un petit peu, mais pas longtemps, parce qu'à qui on le... Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat, qu'elles n'ont pas la même vocation, le même objectif, et qu'on peut soit insister sur ce qui va être une appropriation des bénéfices financiers, c'est ce qui va vers la droite du graphique, ou un développement de la plus-value sociale, et vous voyez, on met plus-value, comme dans le capital, comme dans tous les bouquins d'économie, on parle de plus-value, une plus-value financière. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, plus de valeur et plus de valeur sociale. Donc, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat et donc, on peut choisir une de ces formes parmi les autres. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social ? Je prends la définition de l'OCDE parce que c'est bien de caler les choses sur, sur des éléments qui sont acceptables pour tout le monde. La différence qui apparaît très nettement, c'est que justement, les objectifs économiques et sociaux sont fondamentaux et que la dimension sociale prime sur la question de l'appropriation des résultats financiers. Et c'est donc cela qui va faire la différence entre l'entrepreneuriat traditionnel et l'entrepreneuriat social. La petite phrase qui est ici, une entreprise sociale recherche une solution durable aux problèmes auxquels elle s'attaque et elle tente de maximiser la valeur créée. L'entrepreneuriat social ne cherche pas la propriété, il tire sa satisfaction du bien fondé de son action. Alors, c'est important parce que, si on reprend un autre auteur très solide en matière d'entrepreneuriat, qui est Schumpeter, Schumpeter disait que pourquoi est-ce qu'on crée une entreprise ? Parce qu'on a envie de créer de la richesse soi-même et qu'on a le goût du défi, parce que ça n'a rien d'évident, et que cela va nous apporter du plaisir, du bonheur que de créer quelque chose. Ça, c'était la définition de 1911 de Schumpeter. Mais ce qu'on apporte dans l'entrepreneuriat social, c'est toujours la joie de créer, le goût du défi, et quelque part, le fait de vouloir d'avoir un but qui est un but social à côté du but économique. J'ai mis des petits logos qui sont autant d'entreprises d'entrepreneuriat social que vous connaissez. Et bon, pour moi qui suis prof, par exemple, et qui suis à la MGEN pour la sécurité sociale, etc., on a l'impression que c'est une grosse entreprise. Et c'est une grosse entreprise. Mais le format des mutuelles les conduit à être considérés comme des entreprises sociales parce que l'objectif n'est pas l'appropriation par les propriétaires de l'entreprise, les propriétaires financiers de l'entreprise, des surplus financiers qu'ils réussiront à mettre en place. Pour les autres que j'ai mis ici, la situation est plus classique pour les entrepreneurs sociaux puisqu'ils ont un but social extrêmement affirmé et pas du tout d'objectif d'appropriation financière. Alors, c'est cet entrepreneuriat social, il correspond aussi à une réflexion qui est une réflexion d'aujourd'hui en se disant, et alors c'est en ça que c'est aussi un petit peu interpellant, et si on regardait par en bas, c'est-à-dire ceux qui ont le moins de moyens financiers pour être des consommateurs, ce qu'on appelle « bottom of the pyramid » en anglais, et vous voyez ce que ça veut dire, ben, au lieu de regarder vers ceux qui sont plus riches et qui sont capables de m'acheter des tas de choses, je regarde vers ceux qui sont moins riches, mais qui ont quand même plein de besoins et auxquels il va falloir satisfaire. Alors ce qui est amusant dans ce regard sur le bottom of the pyramid, c'est que ça a été lancé en fait d'abord par des entreprises capitalistes traditionnelles, de se dire mais au fond c'est aussi un marché, c'est pas le même mais c'en est un, et donc pourquoi ne pas se poser la question des besoins de ceux qui ont le moins de sous ? Alors on peut le regarder de plusieurs façons, en disant, bon ben là encore je vais tirer des sous un petit peu, mais on peut aussi le regarder en se disant, dans ces besoins des plus pauvres, il y a quelque chose qui est intéressant sous un double aspect, sous un aspect économique peut-être, il ne s'agit pas de perdre de l'argent, mais sous un aspect qui peut être aussi une dimension sociale. Est-ce que je ne peux pas avoir la possibilité de proposer des produits ou des services de façon durable ? C'est-à-dire que je ne vais pas être obligé de passer la sibylle à la fin pour équilibrer mes comptes, mais qui répondent quand même à des besoins sociaux extrêmement prégnants. Alors, cette réflexion-là, elle a été lancée par certaines entreprises capitalistes et puis aussi par des entreprises complètement sociales qui se sont créées, et en particulier sous la houlette d'une association qui s'appelle Ashoka et qui s'est dit, quand les gens ont des idées sociales, il faut quand même un peu les aider parce que ça n'est pas évident et que le désir de créer, c'est bien, mais que c'est difficile. Et donc, on va tester des solutions. On va tester des solutions d'organisation, on va tester des solutions financières, on va tester des besoins. Et comme ça, on aidera les gens à faire émerger leur désir de créer des entreprises sociales. Alors, si je mets ce document maintenant sous vos yeux, c'est pour vous montrer que l'entrepreneuriat social est désormais, se décline de multiples façons. Ça, c'est un document français, donc c'est un document qui concerne notre pays, notre organisation, de façon très, très différente. Vous connaissez bien sûr tous les mutuelles, vous connaissez les coopératives, vous connaissez les associations, vous connaissez des sociétés qui peut-être des sociétés sociales, et tout ceci nous fait un monde de l'entrepreneuriat social qui n'est pas du tout ridicule, puisque grosso modo aujourd'hui ça fait travailler à peu près 2 millions de personnes en France. Donc c'est pas limité. Alors, pour vous montrer comment je prends un exemple que certains critiqueront peut-être, mais moi je le trouve intéressant, sur l'entrepreneuriat social vécu par une grande entreprise. L'entreprise Danone a une dimension capitalistique bien connue. Elle a aussi une dimension sociale dans un certain nombre de propositions qui sont d'ailleurs généralement rassemblées sur ce qu'on appelle les Danone Communities. Et ceci est un exemple. Ça fait du bien à tout le monde de manger des yaourts pour la santé, pour la croissance, pour les os, etc. etc. Et quand on dit ça, on se dit que ça fait du bien aux riches comme aux pauvres. Ça fait du bien aux jeunes comme aux vieux. Mais il se trouve que dans beaucoup de pays, même là où on fabrique du lait, les plus pauvres ne peuvent pas s'acheter les yaourts. Alors ils ont eu l'idée de repenser complètement, autrement, la fabrication et la commercialisation du yaourt. Alors, si vous voulez, je vous raconterai les détails tout à l'heure. Mais en le repensant complètement autrement, on rend ce produit accessible même aux gens les plus pauvres. Et en plus, on fait travailler des tas de gens qui, ainsi, vont aussi participer à la vie économique sous ces différents aspects. Alors, le mot « Shakti Doy », ça veut dire « qui rend plus fort » en bengali. Et donc, il y a derrière l'idée que ce produit est tout à fait excellent pour la santé. Alors, ça veut dire que des entreprises sont capables, des entreprises capitalistes, sont capables de créer des structures d'entrepreneuriat social qui apportent des tas de choses à l'ensemble de la communauté auprès desquelles elles se sont installées. Alors, en France, l'entrepreneuriat social, c'est ça. Alors les chiffres, tout le monde n'est pas d'accord. Tout à l'heure, j'ai dit un petit peu plus de 2 millions. Ici, vous voyez, c'est un document de l'INSEE, 1,8 million. Alors certains vont dire, oui, mais toutes les mutuelles ne sont pas tellement sociales. Il y en a qui sont plus sociales que d'autres. Bon, ça veut dire qu'il y a un peu de flou en termes de définition. Et toujours est-il qu'on est quand même dans des structures qui ne sont plus du tout ridicules en termes d'effectifs. On n'est pas dans l'expérimentation. On est dans une autre forme d'économie. Alors, cette structuration que vous voyez là, vous pouvez aussi la regarder en termes d'effectifs par secteur d'activité. Et ce n'est pas très commode. Vous voyez que le secteur de l'assurance est un des secteurs dans lequel il y a beaucoup de mutuelles, donc avec un nombre important de salariés dans l'économie sociale. Et puis vous voyez aussi qu'à l'inverse, la recherche scientifique, il n'y a du tout, presque pas d'économie sociale. Alors que les activités associatives sont évidemment très largement orientées dans l'économie sociale. Donc ça veut dire que ça n'est pas homogène dans tous les secteurs d'activité, mais quelque part, c'est quand même maintenant très largement répandu sur le plan des secteurs, mais aussi sur le plan de la géographie. En rouge foncé, ce sont les départements qui comportent le plus d'économie sociale. Voilà, vous avez la possibilité d'interpréter. Il y a quelque chose qui est quand même un petit peu interpellant en termes d'organisation. Il y a le nord et le sud, l'est et voilà. Il y a une diagonale, c'est pas la diagonale du fou, mais il y a un élément. Alors, dans ces conditions, est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce qu'en fait, quand même, c'est ça qui nous intéresse. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut changer d'échelle et passer de 2 millions à X dans notre pays et ou alors dans notre Europe? Alors, moi, je trouve qu'on peut aller plus loin avec deux grandes forces, les hommes et l'argent. Les hommes, d'abord. Alors, les hommes, d'abord les jeunes et puis aussi les plus âgés. D'abord les jeunes, et parce que ce sont parfois ceux... Alors aujourd'hui, ils en bavent beaucoup. Et puis les jeunes, parce que c'est le moment où parfois on est mu par l'enthousiasme et qu'on se dit que nous, on va révolutionner la planète. Alors, vous voyez qu'il y a même des grandes écoles de commerce qui ont créé des chaires d'économie sociale, hein, des chaires de social business. C'est-à-dire, on va... réfléchir comment on gère, comment on crée, comment on développe de l'entrepreneuriat social. Et ça, ça prend, comme tout. Donc, première idée, c'est celle-là. Et puis, l'association dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ashoka, qui, pour dynamiser justement les jeunes qui ont envie de créer un certain nombre de structures d'économie sociale, qui a lancé le Gévolution, Jeune Évolution. Alors, je vous mets partout les sites web, parce que cette évolution, elle peut venir même chez des jeunes qui n'ont pas été très formés. Si ça vous amuse d'aller regarder, vous verrez, on a donné des prix pour des idées très intéressantes à des jeunes qui ont 16 ans, donc ils n'ont pas encore été longtemps à l'école. Et puis, on l'a donné à des jeunes qui en ont 25. Et puis, il y a des niveaux différents, et même à un gamin qui en a 12. Alors, c'est vraiment les idées de la jeune génération pour faire bouger l'entrepreneuriat social. Mais il n'y a pas que les tout jeunes, il y a aussi ceux qui sont déjà un peu avancés dans la carrière, même si leurs aînés y sont encore, ça rappellera peut-être une chanson à certains. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de cadres, de salariés, qui cherchent à rentrer dans des structures d'entrepreneuriat social et qui se disent, moi, je ne veux plus travailler dans une entreprise comme ça, je veux travailler dans une autre type de structure. Ce qui est très intéressant, c'est que ces gens, ils arrivent avec toute leur expérience, leur savoir-faire, et que donc, ils mettent leur potentiel au service de l'entrepreneuriat social. Et donc, on a ainsi du potentiel humain, du capital humain, qui se met en route vers l'entrepreneuriat social. Alors, à côté du capital humain, il faut aussi du capital financier. Alors, le capital financier, on en a besoin à tous les moments. On en a besoin au départ. On ne crée pas avec rien. Il faut toujours un peu d'argent. Donc, il y a des structures, comme l'a dit, qui aident au démarrage, au décollage. Et puis après, il en faut d'autres. Il en faut d'autres pour se développer. Alors, il y a plusieurs idées. Une des idées, qui est par exemple celle de Ciel, dont j'avais mis tout à l'heure le logo, c'est de dire, j'ai besoin d'argent, vous allez m'en prêter ou vous allez m'en donner, parce qu'en fait, avec ça, je vais vous faire faire des économies. Vous savez, c'est parfois un terme qu'on emploie pour attirer le consommateur, mais dans certains cas, c'est vrai. Dans certains cas, c'est vrai, quand on met des gens au travail alors qu'ils étaient au chômage, quelque part, c'est mieux de leur donner un salaire que de leur donner une prestation de chômage. Et ça n'est pas forcément beaucoup plus cher. Surtout si, avec ce salaire, ils produisent et ils créent de la richesse, ce qui va, bien sûr, permettre de compenser. Donc, il y a une réflexion là-dessus qui est tout à fait intéressante et qui permet d'attirer des moyens financiers, en particulier bancaires traditionnels ou étatiques. Et au lieu de donner des allocations chômage, je vous donne de quoi investir et vous me rendrez ce que, quelque part, je vous ai donné. Et puis, il y a aussi, pour aller plus loin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact investing. Alors voilà, ce sont les Américains qui ont inventé ce mot-là en 2007. Vous voyez le rôle du temps, la maturation, et qui, moi, je trouve est quelque chose d'intéressant parce que ça montre que cette idée, elle se développe, elle s'appuie, elle s'installe, elle monte. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'impact investing? C'est de dire, on ne va plus. Quand je cherche à emprunter de l'argent, vous dites qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez comme business plan? Qu'est-ce que vous avez? Comment vous pensez que vous allez pouvoir me rendre l'argent que je vous prête? On dit, ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez quelles sont les conséquences économiques, financières, qu'est-ce que vous allez gagner comme chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous allez créer comme richesse, et quels sont les impacts sociaux. C'est-à-dire, quel type de personnes vous allez embaucher, quel type de oui, quel type de personnes avec quelle, telle ou telle difficulté qui seraient des exclus et qui ainsi rentreraient dans l'économie, qu'ils soient des chômeurs, des handicapés, des, etc. Et donc, on ne va plus analyser le projet uniquement dans sa dimension financière, mais dans sa dimension financière et sociale. On va dire sociale et financière. Et cette façon de réfléchir a conduit à se poser autrement la question de l'attractivité de ce que l'on va appeler l'épargne solidaire. C'est-à-dire que si on dit à l'épargnant que nous sommes tous, qu'il est possible de placer de l'argent parce qu'on a besoin d'avoir un peu d'argent devant soi, parce qu'on a envie d'acheter une maison, parce que, etc. Et donc, de placer de l'argent qui va, pendant ce temps-là, être prêté à quelqu'un d'autre qui en a besoin dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Mais ce n'est pas pareil de prêter à quelqu'un d'autre ou de donner. Donner est intéressant, mais prêter est aussi intéressant. Et donc, évidemment, on élargit considérablement le montant des sommes qui sont disponibles si on ne se limite pas au don, mais qu'on envisage un prêt qui ne va pas être à 10%, mais qui va être au taux actuel de la caisse d'épargne, c'est-à-dire 2. Bon, 2, ce n'est pas beaucoup, mais c'est moins que moins. Et donc, ça fait penser aux individus que la dimension épargne, elle peut avoir une dimension épargne solidaire. Alors, cette épargne solidaire, elle se développe beaucoup en France parce qu'il y a eu une petite loi qui a été définie par le précédent gouvernement, qui était extrêmement intéressante, qui était de dire, dans l'épargne salariale que les entreprises sont obligées de construire, eh bien, dans l'épargne salariale, il y aura obligation qu'il y ait une partie de cette épargne salariale qui soit mise sur de l'épargne solidaire. Alors, à partir du moment où il y a eu cette obligation, c'est toujours pareil, ça se passe. Et comme je vais vous le montrer avec le graphique ici, vous voyez que l'épargne solidaire, elle a eu le vent en poupe, très nettement, à partir de cette décision. Quand on regarde, c'est une loi de 2010, et vous voyez que ça change quelque part les volumes qui peuvent être mis à la disposition des individus. Donc, je reviens là parce que je voudrais évoquer aussi ce que l'on appelle encore d'un mot américain, parce qu'on n'a pas... Bon, si vous avez une idée, ce qu'on appelle le crowdfunding. Alors, qu'est-ce que c'est que le crowdfunding ? Un truc simple, c'est de dire, eh bien, on va faire appel au peuple, c'est ça. Et donc, vous avez un projet... Mon idée, c'est j'ai besoin d'argent pour réaliser ce projet. Et au lieu de passer par le circuit financier bancaire traditionnel, je vais passer par des plateformes numériques de crowdfunding. Et vous allez mettre 50 euros. On vous le rendra à 2%, etc. Mais je passe hors d'un circuit traditionnel. Alors, c'est en train de se développer dans des éléments de sécurité tout à fait solides, parce qu'il ne s'agit pas de faire des bulles qui éclateront et puis de rendre l'argent à ceux qui ont accepté de participer au projet, mais de dire, eh bien voilà, on demande, vous voulez bien me prêter 50 euros, je vous les rends à telle période, etc., je vous donnerai des intérêts, machin, mais je passe plus par l'analyse forcément détaillée d'un banquier qui veut 5% d'intérêt, mais je passe quand même par quelqu'un qui dit non, ce projet-là, il ne tient pas la route, je ne vous le passe pas, mais on étend la participation des individus. Alors vous voyez, ça veut dire que ces deux éléments-là, les hommes et les finances, sont effectivement en train d'évoluer. Sont en train d'évoluer et vont, de fait, permettre, il me semble, sans vraiment de très grandes difficultés, à des projets d'économie sociale, d'entrepreneuriat social, de voir le jour et de se développer, quelque part, à vos idées. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'économie solidaire. Et ce n'est pas la même chose. et c'est pour ça que je voudrais qu'on fasse un peu la différence, parce que vous voyez que dans l'économie sociale, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il n'était pas question de faire du déficit, qu'il n'était pas question de se dire qu'il fallait forcément tendre la main parce que on est toujours en déficit. Quelque part, c'est très intéressant parce que se dire que l'objectif, ce n'est pas de gagner 10%, mais de ne pas perdre et de favoriser la participation d'un plus grand nombre de personnes à la vie économique de son pays, pour l'économiste de base que je suis, c'est sécurisant. Vous voyez bien les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau national avec le remboursement de notre dette. Bon. Donc, on ne peut pas faire du déficit un moyen de développement. C'est pas possible. Nos grands-mères nous auraient envoyés au cachot. C'est pas possible. On ne dépense pas plus qu'on ne gagne. Et à cette époque-là, on ne dépensait que quand on avait l'argent. Donc il fallait d'abord faire des économies et après dépenser. Alors, on ne revient pas à nos grands-mères, mais on se dit que quand même, il y a des fondamentaux qui sont importants à maîtriser. Alors l'économie solidaire, elle va nous conduire à une façon un peu différente de penser. C'est que dans l'idée de l'économie solidaire, c'est véritablement de s'interroger sur les besoins qui ne sont pas du tout satisfaits dans notre environnement, notre économie, notre pays, etc. Et dans certains cas, d'échapper à ce que l'on appelle l'emprise de la monnaie, la problématique de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept d'économie solidaire? Vous voyez, avec le petit graphique que j'ai mis là, on voit qu'il y a plusieurs logiques dans la vie économique. La logique marchande, que nous connaissons bien aujourd'hui, tout le monde la connaît, j'ai de l'argent, j'achète, etc. Bon, ça c'est l'économie marchande. La logique distributive, eh bien, c'est la sécurité sociale, c'est la retraite. La retraite telle que nous la connaissons en France. On prend un certain, on partage, etc. Il y a une logique. Normalement, on essaye de ne pas non plus être en déficit. Normalement. La question des retraites, la question de la sécu, c'est ça. Mais c'est de la distribution. Et puis, il y a la logique réciprocitaire. J'échange. Je te donne, tu me donnes. Je participe, tu participes. C'est un petit peu différent. C'est une autre logique. Et quelque part, c'est cette logique-là qui va nous intéresser, sachant que on peut être plus dans la logique marchande, plus dans la logique distributive, plus dans la logique réciprocitaire. Et vous voyez les mots que j'ai mis, la crèche parentale par exemple, c'est on a besoin de faire garder nos petits quand on va travailler. Bon, donc on s'organise, on trouve un lieu. Aujourd'hui, c'est toi qui gardes les enfants. Demain, c'est moi. Après-demain, c'est un autre. C'est effectivement de la logique réciprocitaire. Mais il y a aussi, eh ben, toi, tu as un travail qui est plus prenant ou du moins avec plus d'heures de présence. Tu viendras un peu moins. Donc, il y a aussi de la logique distributive. Et puis, il y a parfois uniquement de la logique réciprocitaire. Je suppose que tout le monde connaît à peu près les selles dans la région. C'est, moi, je sais écrire un CV, je dis ça parce que ça m'est arrivé souvent. Moi, je sais écrire des CV et toi, tu sais faire la paella. Et tu m'apprends à faire la paella et moi, je t'écris ton CV et voilà, on s'échange. Ou tu me fais la paella et moi, je t'écris ton CV et puis la prochaine fois, ben, on fera autrement. Et il n'y a pas d'échange marchand entre les deux. Alors, c'est du troc. Donc on revient à quelque chose d'ancien. C'est tout à fait intéressant à certains moments. Ça ne pourrait absolument pas être généralisé. Parce que si on ne paye rien, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge sociale. Donc il n'y a plus de sécu et il n'y a plus de retraite. Hein ? Donc c'est ça que ça veut dire. Mais à certains moments, pour certaines activités, c'est aussi le moyen de réintroduire dans la vie de production ceux qui ne sont pas actuellement dans l'échange marchand. Et c'est ça qui est intéressant. C'est la réponse à l'exclusion. Parce que tout le monde sait faire des choses. Presque. Mais si, tout le monde sait faire des choses. Et je retire le mot presque. Tout le monde sait faire des choses. Et on peut participer avec ce que l'on sait faire. D'autant plus que quand on fait, on apprend et on sait encore mieux la fois d'après. Donc cette logique réciprocitaire, elle est très intéressante pour certains, à certains moments, dans certains lieux. Et puis, elle n'est pas antinomique d'autres choses. J'ai pris exprès l'exemple du CV parce que je le connais bien. Ça ne m'empêche pas d'être aussi dans l'économie marchande. Et ça n'empêche pas celui qui, pour l'instant, n'est pas dans l'économie marchande de, à un moment donné, revenir pleinement dans l'économie marchande. Mais c'est une autre façon de voir l'organisation économique. Et donc, c'est intéressant de... Quelque part, c'est une autre forme de régulation. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant que la régulation était vieille comme le monde et qu'il fallait s'interroger sur les nouvelles formes de régulation. Alors, l'économie solidaire, c'est ce que j'appelle un concept à trois dimensions. C'est un concept à trois dimensions parce qu'il y a une dimension économique, il y a une dimension symbolique et quelque part, il y a une dimension utopique. Et que ces trois éléments, il faut les avoir en tête. Si on n'est que dans l'utopie, si on n'est que dans l'économique, on va retourner à l'ancien système. Et au fond, ce qui fait le ciment entre les deux, c'est la dimension symbolique qui va permettre de construire et de voir les choses un petit peu autrement. Alors, je rentre dans des détails. Vous voyez que si on développe cette économie solidaire, ça nous fait changer la façon dont on voit les choses. C'est quelque part un autre monde, même si, moi j'insiste beaucoup, ça n'est pas le seul. Ce que je trouve d'intéressant, c'est de montrer que, au sein de l'espace public, tous ces éléments peuvent se mélanger. Parce que toutes les activités peuvent avoir une dimension symbolique, toutes les activités peuvent avoir une dimension économique, et quelque part, il y a aussi une dimension politique dans cette réflexion. Cette réflexion sur l'introduction de l'économie solidaire dans l'espace public, c'est aussi une façon de nous interpeller, de nous faire réfléchir et de penser à la concertation de façon différente, de penser à une profonde concertation. C'est aussi, évidemment, l'ouverture vers les plus démunis. C'est aussi quelque chose qui s'ancre dans le local, dans la proximité, et qui, parce que ça s'ancre dans la proximité, ne nous conduit pas à dire « Yaka, Faucon, si, etc. » Non, c'est « hic et nunc », comme on dit en latin, « ici et maintenant ». Et donc, quels sont les besoins que je vois? Comment je peux participer? Avec qui? Sous quelle forme? Dans quelle structure? Quand on m'appelle, ou si moi j'appelle, comment je peux participer à cette transformation de l'économie? Voilà. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que la réflexion que je vous présente là, elle s'inscrit complètement dans un renouveau de la pensée scientifique. C'est-à-dire que les acteurs de l'économie sociale, ce ne sont pas des bons samaritains tout seuls au milieu de nulle part. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent, mais vous voyez, plus que sérieusement, à ce que c'est que l'économie solidaire et comment la mettre en place. Vous voyez ce document, il vient d'un ouvrage théorique qui est le fruit d'une analyse et d'une réflexion. Et ce qu'on voit bien en évidence, c'est que l'objectif désormais, c'est la création de valeur sociale. Cette création de valeur sociale, elle se traduit par une co-conception et une co-prestation des... Alors co-prestation, ça veut dire qu'on fait avec. Une co-conception, ça veut dire qu'on pense avec ceux qui ont des besoins qui ne sont pas satisfaits et ceux qui, à l'intérieur d'une organisation qu'ils ont créée, vont travailler avec pour produire ces fameux besoins, pour produire des éléments qui vont répondre à ces besoins qui ne sont pas satisfaits. Et donc, la valeur sociale, le réseau, la communauté, tout ça, ce sont des éléments auxquels il faut donner vie, dans ces structures d'entrepreneuriat solidaire. C'est une utopie en acte, c'est-à-dire qu'on se lance dans un autre moyen. Si vous voulez, c'est une utopie aujourd'hui. Mais tous ceux qui se sont intéressés à des connaissances historiques qui sont plus anciennes savent bien que des structures économico-politiques ont fonctionné comme cela autrefois. Parfois il y a très longtemps, parfois il y a moins longtemps, au XIXe siècle, au début du XXe ou au Moyen-Âge. Et donc, ce n'est pas complètement nouveau. C'est complètement nouveau pour la génération d'aujourd'hui, pour les gens qui ont 40 ans aujourd'hui. Ou pour les jeunes qui en ont 20. Mais ça n'est pas complètement nouveau. Donc, c'est la redécouverte d'une autre façon de satisfaire les besoins généraux. Alors, voilà toutes les activités dans lesquelles se lance de l'économie solidaire. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça touche aussi bien la finance que la monnaie, que la production, que la communication, que la culture. Donc, rien ne nous est interdit. Rien. Il faut simplement avoir des idées et les structurer. Alors, je vais vous donner des exemples. Alors, les fameux sels blousins, qui sont donc j'échange un savoir contre un autre savoir, et donc un produit contre un service ou un service contre un produit. Un autre exemple qui est un exemple financier d'une structure qui rassemble de la finance solidaire pour la mettre au service d'une activité qui se lance. Des développements dans le terme de l'habitat, penser l'habitat autrement. Ça, c'est une habitat humanisme, sans doute, que certains d'entre vous connaissent, bien sûr, parce que c'est quand même... Et ça, c'est une réalisation qui s'est faite dans la région lyonnaise. Et puis, ça, c'est la fameuse association dont j'ai parlé, Ashoka, qui propose des idées, des prix pour encourager et pour faire connaître ceux qui se sont lancés dans l'économie solidaire. Alors, ça ne veut pas dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a des limites à l'économie solidaire, des limites qui sont liées au fait qu'il arrive que des structures qui ont été pensées avec une volonté de solidarité forte périclitent. Elles périclitent parce que le temps est parfois notre ennemi, parce qu'on se fatigue, parce qu'on oublie, parce qu'on a le goût de la puissance, parce qu'on a envie d'argent. Et tous ces éléments-là sont susceptibles d'affadir les bonnes volontés, les enthousiasmes, de les affaiblir et de faire en sorte que la structure disparaisse. Il y a plein de crèches parentales qui ont été lancées à un moment ou à un autre dans la dynamique et l'enthousiasme et qui finissent, qui meurent parce qu'il n'y a plus les bonnes volontés et l'enthousiasme collectif, la réflexion commune, les intérêts communs disparaissent. Donc, de la même façon que l'économie capitaliste a ses défauts, l'économie solidaire a les siens. Et donc, il faut le savoir et il faut se dire qu'il faut se renouveler tout le temps pour que ça fonctionne. Et puis que, de toute façon, les structures sont aussi faites pour mourir. Et que celle qui meurt, elle sera remplacée par un autre jour et qu'il ne faut pas forcément s'accrocher. Le jour où il n'y a plus l'enthousiasme pour le faire, on change. Et puis, on repart sur autre chose. Alors, pour terminer... Eh bien, je vais mettre quelques exemples locaux. Alors, il existe en Midi-Pyrénées une association qui s'appelle la DEPES et qui tient un inventaire de tout ce qui se fait dans le cadre de l'économie solidaire en Midi-Pyrénées. Et vous voyez ici chaque petit point, eh bien, c'est une initiative d'économie solidaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la DEPES, je mets son logo et je dis ce qu'elle fait. Alors, c'est une structure qui est extrêmement dynamique et qui apporte aussi bien des conseils, parce que tous ceux qui créent en matière d'économie solidaire ont besoin d'être conseillés. Alors, où est-ce qu'on trouve des moyens financiers? Parce que quand même, quand on fait de l'économie solidaire, la question du développement durable n'est pas lointaine non plus. Donc, est-ce qu'on peut faire en même temps du solidaire et du durable? Comment est-ce qu'on construit un projet pour qu'il soit attractif pour ceux qui vont participer? Comment est-ce qu'on se forme? Parce que ce n'est pas évident. Donc, il y a des formations qui sont dispensées. Et puis, il y a un forum régional annuel. Bon, ça paraît logique pour échanger. Et puis, il y a une participation à des structures européennes. RIPES Europe, c'est une structure européenne qui rassemble toutes les initiatives ou tout ce qui se passe. Et la prochaine réunion de RIPES Europe a lieu en juillet à Bruxelles, avec la DPS ISRA pour être plus... d'abord pour se nourrir. Parce que l'enthousiasme, vous savez bien que ça se nourrit. Que ça se nourrit sur le plan intellectuel, ça se nourrit de rencontres, ça se nourrit d'exemples, ça se nourrit d'échanges. Voilà, j'ai essayé de tenir le délai. Alors, pour aller plus loin, ça c'est de la biblio, ça c'est le prof de base qui vous donne des éléments bibliographiques. Voyez la même sur la table, j'en ai apporté au cas où vous auriez envie de regarder. Et puis pour vous montrer que il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à cette question aujourd'hui et qui essayent d'apporter leur pierre, que ce soit une pierre théorique, une pierre pratique, une pierre analytique ou une pierre de collecte d'informations. Merci. Thank you.